DW. L'arbre à palabre.
Bienvenue à ce nouveau numéro du débat sous l'arbre à palabre. Le Conseil des sages de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est un organe de médiation de l'institution sous-régionale, a demandé en milieu de semaine au régime militaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger de reconsidérer leur sortie de l'organisation régionale dans un communiqué publié donc mercredi 1er mai. Le Conseil des sages a également évoqué les ingérences politiques croissante dans la région et la vulnérabilité des États membres demandant à la commission de la CEDEAO de prendre des mesures urgentes pour éviter que la région ne devienne une arène de conflits géostratégiques. Fin de citation. Nous profitons de cette sortie du Conseil des sages de la CEDEAO pour parler de l'institution sous-régionale ou plutôt de son avenir. La CEDEAO qui a été établie par le traité de Lagos, signé le 28 mai 1975 par 15 pays d'Afrique de l'Ouest, et ses objectifs initiaux étaient essentiellement économiques, et la CEDEAO a pris par la suite en charge les questions politiques. La CEDEAO est également beaucoup critiquée, d'aucuns estiment qu'elle condamne beaucoup trop, sans réserve, les coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest, et qu'elle ne prévient pas les changements anticonstitutionnels de pouvoir. Et pour en parler, je reçois trois invités sous l'arbre à palabre. Pape Ibrahima Kan, qui dirige le programme de plaidoyer de l'Union africaine au bureau ouest-africain de l'ONG OZIWA. Bonjour.
Bonjour, Eric.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité, Credo Tété, journaliste et analyste politique togolais. Bonjour.
Bonjour, monsieur Topona.
Enfin, le troisième invité en ligne de Cotonou, le professeur Prudent Victor Topano. Bonjour, professeur Topano.
Bonjour, monsieur Topona, et merci de m'avoir invité.
Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale béninoise. Le débat sous l'arbre à palabre. Merci de votre fidélité.
Vous êtes sur Twitter? Venez voir le compte de la DW Afrique.
Première question, je vais la poser au professeur Victor Topano. Comment est-ce que vous avez réagi, ou bien comment est-ce que vous réagissez justement au communiqué publié mercredi 1er mai par le Conseil des sages de la CEDEAO qui demande au régime militaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger de reconsidérer leur intention de quitter l'organisation?
Écoutez, il n'y avait rien de nouveau dans le communiqué, puisque, comme vous le savez bien, les chefs d'État de la CEDEAO eux-mêmes avaient déjà appelé ces trois pays à reconsidérer leur position. Ensuite, pour les questions de géopolitique, Macky Sall, avant son départ, avait déjà informé que l'un des problèmes de la CEDEAO, c'était les interventions extérieures. Et donc, je pense que si les chefs d'État ont pu dire et que ça n'a pas été audible, c'est pas les sages de la CEDEAO qu'on a ressuscité pour la circonstance qui sera plus importante. En un mot, je dirais que voilà, il n'y a rien à voir, circuler. Si vous avez fait attention, dans le même communiqué, ils ont imploré quasiment la CEDEAO à l'effet de mettre à leur disposition les moyens de la communication, etc., etc. Je pense que bon. C'est beaucoup plus du théâtre que du sérieux. La CEDEAO traverse une crise très profonde et je pense qu'elle mérite des solutions plus larges.
Peut-être qu'on peut l'assimiler à une sorte d'opération de sauvetage, non?
Oui, mais à ce temps qu'elle est perdue d'avance. Elle est perdue d'avance, c'est pas les anciens. C'est pas Goudon de l'attente qui va faire changer d'avis au président des pays de l'AES, pas plus d'ailleurs que les divergences à l'intérieur de la CEDEAO ne pourraient être réglées par l'intervention de Goodluck Jonathan. C'est pas possible. Chacun de nos pays se comporte vis-à-vis de la CEDEAO comme des acteurs individuels qui défendent leurs propres intérêts, pas l'intérêt du groupe.
Oui, on va évoquer tout à l'heure justement la question de la crédibilité ou de l'avenir de la CEDEAO. Pape Ibrahima Kan, est-ce que cette opération, cette sortie des sages de la CEDEAO peut peut-être être utile?
Oui, en tant que sage, vous savez, on est en Afrique de l'Ouest, on est dans une région où les les sages ont un rôle à jouer dans la, au sein de la communauté. Je pense que c'est un, et puis c'est une institution officielle de l'Union de la CEDEAO. Je pense que c'est normal qu'ils réagissent de cette façon, qu'ils fassent cet appel du pied. Rappelez-vous récemment le général Gohon, qui est pratiquement celui qui a créé cette institution, avait aussi fait la demande. Pour moi, ces demandes-là peuvent avoir de l'utilité, dans le sens où, jusqu'à présent, on est dans le timing qui fait que, juridiquement, les États sont encore membres de la CEDEAO. On a quelques nouveaux leaders qui entendent jouer vraiment un rôle important dans la redéfinition du mandat, dans la réforme, pour ainsi dire, de la CEDEAO, mais aussi pour le retour de ces trois pays qui ont décidé de quitter l'organisation. Je pense que c'est une chance qui s'offre, et ce message-là des sages peut servir de catalyseur.
Mais pourtant, tout à l'heure, le professeur Topano semblait sceptique. Est-ce que cette sortie ne pourrait pas être assimilée à une sorte de d'eau sur le dos de canard?
Non, pas tout à fait. Parce que, regardez, ces trois pays-là aussi sont dans une impasse. Ils ne savent pas quoi faire. Les populations sont même anxieuses dans la mesure où elles ne savent pas si, par exemple, elles quittent la CEDEAO, est-ce qu'ils pourront bénéficier de la même facilité de circulation dans cet espace-là. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui se posent. Ils ont raison de mettre en exergue les faiblesses, les incohérences, les problèmes
et
de la
CEDEAO. Et pensez-vous que ces pays qui veulent sortir, qui veulent quitter la CEDEAO, essaient juste de mettre la pression, un moyen de chantage, de pression?
De pression, je pense. Et vous savez, la crise nigérienne a quand même mis en exergue un problème, c'est l'inefficacité des sanctions imposées aux États. Et cette crise-là a permis aussi à ces trois pays de sortir, d'essayer de sortir de cette situation et d'imposer à la CEDEAO une nouvelle façon d'agir. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on doit agir. Parce que jusqu'à présent, vous ne les avez pas entendus prendre d'autres directions. Vous ne les avez pas entendus avoir un discours va-t-en-guerre. Et même si certains ont fait le déplacement au Maroc pour discuter des possibilités d'échange, ces possibilités-là se sont arrêtées à cette réunion. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être discutées de manière souterraine et que le retour à la maison du père est possible.
Oui, on va évoluer tout à l'heure, mais avant, je vais également faire réagir Credo Tété par rapport justement à cette sortie, hein, par rapport au communiqué publié mercredi 1er mai par le Conseil des sages de la CEDEAO.
Oui, Eric, je dirais que le Conseil des sages de la CEDEAO est dans une démarche assez normale. Et cette démarche, elle est salutaire du moment où les sages dans une maison doivent toujours réagir lorsque la maison est en train de prendre de l'eau, bien s'il y a le feu dans la maison. Nous avons vu qu'avec les instances dirigeantes de la commission de la CEDEAO et tous les États de l'AES, il n'y a plus de canal de discussion, mais s'il y a des sages dans la maison, donc les sages ne feront que appeler d'abord ceux qui ont manifesté leur désir de quitter l'espace communautaire à reconsidérer leur position.
Et pensez-vous que la CEDEAO va être entendue? Est-ce que les sages seront entendus?
Non, mais le résultat, nous allons constater ça. Mais moi, je parle de la démarche. La démarche, elle est salutaire, elle est noble. Maintenant, au-delà du communiqué, quelles sont les actions de diplomatie qui seront menées? Donc, il y a toujours des canaux qui sont mis en place pour ramener, pour essayer de maintenir le canal de discussion avec les leaders de ces trois pays. Et j'ai bon espoir que des terrains d'entente seront trouvés et qu'ils pourront également agir désormais sur le mécanisme de prise des décisions et puis des sanctions du côté de la commission de la CEDEAO pour rassurer tous les États membres.
Victor Topano, je le disais tout à l'heure, hein, la CEDEAO traverse une crise et c'est pourquoi vous aviez proposé récemment une réflexion qui a été publiée par nos confrères de Banoto et vous aviez analysé justement donc cette crise, hein, cette crise actuelle au sein de la CEDEAO et vous avez fait remarquer que la CEDEAO traverse au moins deux crises majeures, à savoir une crise actuelle, la crise de la démocratie, et une crise permanente, la crise de légitimité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, en gros, c'est ce que je veux dire par là, c'est que 1975, lorsque la CEDEAO était créée, elle n'était composée que de pays, entre guillemets, dictatoriaux. Voilà. Et depuis 1990, que nous sommes passés à la démocratie dans notre sous-région, jamais la CEDEAO n'a tenté de rattraper une quelconque légitimité. Elle continue d'ailleurs, pour le compte de son Parlement, de désigner des parlementaires nationaux alors qu'on aurait pu aller vers l'élection directe de députés de la CEDEAO. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que, et c'est peut-être là l'intérêt de voir, de faire de la comparaison. En 1990, avec la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc de l'Est, nous étions en Afrique quasiment dans la même situation démocratique, de démocratisation que les pays de l'Europe de l'Est. Je pense à la Roumanie, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, je pense à la République tchèque, initialement Tchécoslovaquie, scindée en deux. Bon, bref, on était tous des dictatures. On n'avait pas de différence, fondamentalement. Mais la différence avec ces pays-là, c'est qu'en 90, lorsque eux, ils se sont retrouvés en l'air, obligés de chercher un nouveau partenaire, il y avait l'Union européenne qui était là et à laquelle ils voulaient tous adhérer. Et l'Union européenne le dit, il n'y a pas de problème. Mais pour adhérer, vous avez un paquet de conditions à remplir. Donc on leur donne le panier des conditions et ils le remplissent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis ensuite, ils passent à l'adhésion. Dans notre cas, en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on s'est retrouvé plus ou moins sommé d'aller à la démocratie en 90, il n'y avait aucune organisation concurrente démocratique qui a cherché à nous accueillir. Et donc, du coup, c'est à la même CEDEAO, composée que de présidents illégitimes, qu'on a demandé de faire l'effort. C'était très compliqué.
Mais pourtant, la CEDEAO est citée en exemple, hein, dans la sous-région.
Oui, non, en Afrique, oui. Parce qu'on nous compare, aux autres organisations. Quand vous prenez l'Afrique du Nord avec l'UMA, ça ne fonctionne quasiment pas. Quand vous nous comparez à l'Afrique centrale, on sait tous que pour aller du Cameroun de Douala, N'Djamena, il faudrait un visa. Ce que nous, on n'a plus en Afrique de l'Est. C'est vrai qu'on est réduit à prendre la CEDEAO en Afrique comme la meilleure zone d'intégration. Mais du coup, plus personne ne s'est posé le problème de la légitimité. On n'a jamais, mais je dis bien jamais, on a organisé un référendum, ni d'adhésion à la CEDEAO, encore moins à son approfondissement. Au moins, au moment où on voulait passer à la monnaie unique, décider du principe de la monnaie unique, on aurait pu demander un référendum. Et si on avait fait le référendum et qu'on savait que c'était une affaire populaire, la France et la Côte d'Ivoire n'auraient pas piraté cette monnaie-là. Avec ce qui s'est arrivé, avec ce qui est arrivé, que tout le monde sait. Et donc, effectivement, moi je reste convaincu qu'il y a un vrai problème de légitimité qu'il faut, à un moment ou à un autre, résoudre, faute de quoi nous irons de crise en crise, parce que personne n'est légitime pour donner des leçons à personne. Comment voulez-vous avancer dans ces conditions? C'est impossible.
Ok, je vais faire réagir également les autres invités. Ibrahim Akane, êtes-vous d'accord avec le professeur Topanou qui estime que la CEDEAO est minée par plusieurs crises, dont la crise de légitimité et de démocratie?
Légitimité, je ne le dirais pas. Crise de gouvernance, oui. Pourquoi je ne dirais pas crise de légitimité? Parce que malgré les problèmes que la CEDEAO rencontre aujourd'hui, il y a des institutions au sein de la CEDEAO que les peuples chérissent, que les peuples utilisent encore et auxquelles les peuples s'accrochent pour voir les problèmes.
Mais les membres de ces institutions n'ont pas été élus. Ils ne sont pas élus. Hein. C'est de cela
non,
que...
prenez le cas de la... Non, je parle de, par exemple de la Cour de justice de la CEDEAO, que tout le monde saisit, malgré le fait que, même s'il y a des problèmes internes, c'est à elle de trouver des solutions. Parce qu'elle était l'une des rares institutions qui fonctionnait plus ou moins bien. Le grand problème de la CEDEAO, à mon avis, Eric, c'est le leadership, aussi bien au niveau de la commission de la CEDEAO et le leadership politique, c'est-à-dire les chefs d'État. Là, il y a de sérieux problèmes. La CEDEAO, comparée à pratiquement toutes les autres communautés économiques régionales, est la mieux structurée et la mieux outillée. Par exemple, la CEDEAO dispose de règles qui font que le président de la commission peut intenter des recours contre les États, des recours en manquement, si les États ne mettent pas en œuvre les décisions de la CEDEAO ou les politiques de la CEDEAO. On a vu aucun président de la commission, en dehors de Ibn Chambas, qui avait vraiment fait un effort à ce niveau-là, aucun président de la CEDEAO porter des affaires devant la Cour de justice contre les États. Il essaye de régler ça de manière politicienne. Et le fait que les présidents, c'est-à-dire maintenant je viens à la dimension politique, les présidents ont main libre pour choisir qui ils veulent pour la présidence de la commission, mais ils mettent des gens qui sont des bénis oui-oui, des gens qui sont prêts à faire...
Mais même ces présidents sont pour la plupart mal élus et, ou bien qui ne respectent pas la charte qui gouverne le fonctionnement de cette institution, la CEDEAO.
Exactement. Ce sont ces questions-là qu'il faut régler, ce sont ces questions-là qu'il faut résoudre si on veut que la CEDEAO parte de là-bas. Je rappelle à mon frère du Bénin que si fort et adamant lorsque son père est décédé en 2005, n'est pas arrivé directement au pouvoir comme il le voulait, c'est grâce à la CEDEAO en partie. C'est-à-dire, okay. À l'époque, on avait des gens qui avaient une certaine légitimité et qui pouvaient s'opposer à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans son pays.
Mais la CEDEAO n'a pas empêché ce tour de passe-passe qui a permis quand même au président Yadema...
Ah non, la CEDEAO l'a empêché de venir prendre le pouvoir directement. Maintenant, comment à l'interne ils ont pu régler le problème pour que Faure puisse aller à l'élection présidentielle et autres, ça c'est un autre problème. Parce qu'il y a aussi des limites à ce que l'institution peut faire dans le contexte qui est celui de 93. Juste un dernier mot.
Oui, allez-y très rapidement.
À quel point la CEDEAO, l'actuelle actuelle a une certaine légitimité. En 1993, on a révisé le protocole de la CEDEAO. Ça a été révisé pour prendre en compte les leçons tirées des expériences libériennes et sierra-léonaises et pour essayer de redonner une nouvelle vision, une nouvelle direction à cette institution. Et en 93, ça a été fait et ça a marché. Mais ce n'est que ces 5-10 dernières années, avec le leadership qu'on a, avec la gouvernance qu'on a, qu'on est tombé dans ces travers-là.
D'accord.
Et ça, je pense que c'est important de le dire.
Ok. Je vais également donner la parole à Credo Tété. On parlait à l'instant des chefs d'État, de certains membres, de certains dirigeants des pays membres de la CEDEAO qui ne respectent pas les textes fondateurs de la CEDEAO. Et le Togo est cité parmi les mauvais élèves de la CEDEAO.
Non, Eric, je voudrais que tu me dises d'abord qui a cité le Togo parmi les mauvais élèves. Il s'est vite fait de prêter des intentions au Togo. Je crois qu'aujourd'hui, le Togo s'efforce de respecter les directives de la CEDEAO et il y a des efforts constants qui sont faits. Et donc, c'est pour dire que je partage les avis de M. Khan parce qu'il a dit la majorité des choses. La force de la CEDEAO, nous avons vu ça en 2005. Donc, il a rappelé le mode de dévolution du pouvoir au décès du général ni à subir des mains. Donc la CEDEAO a tapé du poing sur la table et vous avez vu qu'il y avait eu un rétro-pédalage. Mais dire gratuitement ici que le Togo est mauvais élève, je ne sais pas sur quels critères vous êtes en train de le dire, mais nous avons vu les efforts du Togo dans la bonne marche des actions de la CEDEAO.
Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple.
Oui, est-ce que je peux terminer?
Allez-y.
Et en dernier, nous avons vu les efforts du Togo dans la médiation pour avoir une passerelle avec les nouvelles autorités du Niger. On a vu que les hautes autorités de la CEDEAO s'étaient confrontées à des difficultés pour prendre langue avec les autorités, les nouvelles autorités du Niger, parce que à un certain moment, au début de la crise, même au niveau du leadership de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, lorsque les autorités du général militaire ont déposé le président Bazoum, les premières réactions de la CEDEAO n'étaient pas, disons, je ne dirais pas responsables, mais n'étaient pas appropriées. Et nous tous, nous avons vu comment les positions étaient braquées entre les deux parties. Donc il a fallu que le Togo, par le leadership de son chef d'État, Faure Gnassingbé, mène des discussions pour avoir des canaux qui ont permis à ce que la seconde mission de renouveau de la CEDEAO soit accueillie au Niger. Et cela a abouti, disons, à un dégel des positions qui sont à cet étranger. Mais dit gratuitement ou bien abusivement ici que le Togo est cité en mauvais élève, donc je voudrais que tu puisses nous énumérer quelques points et ensemble nous allons mener la réflexion.
Voilà, avant de répondre à votre question, sans polémiquer, professeur Victor Topanou, je l'ai rappelé, beaucoup de pays, beaucoup de pays membres de la CEDEAO ne respectent pas intégralement les textes fondateurs qui régissent le fonctionnement justement de cette institution sous-régionale. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, d'accord. Je pensais que c'était moi.
Je laisse le professeur Topanou répondre. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Allez-y, professeur Topanou.
Non, je trouve que M. Kahn est particulièrement clément avec la CEDEAO parce que quand il parle de la Cour de justice qui fonctionne, il sait très bien que le Sénégal a été une fois au moins sanctionné, que le Sénégal n'a pas voulu en tenir compte, que des procès perdus, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec le président Bazoum après le coup d'État. Bon, une fois, elle dit le contraire, le lendemain, elle revient sur sa position, les chefs d'État prennent une position contraire. Non, je pense que si nous voulons, si nous voulons vivre ensemble, il faudrait que nous soyons quasiment tous sur les mêmes longueurs d'onde, enfin, pas totalement, on ne peut jamais être totalement harmonisé, mais que sur un certain nombre de principes, on soit d'accord. Lorsque la Cour de justice sanctionne et qu'on ne peut pas respecter, ce n'est pas la peine. Il y a un problème. Et qu'on soit obligé de dire que c'est cette Cour-là qui constitue encore un recours à l'intérieur de l'institution, c'est que vraiment, on a choisi d'être très clément. Bon, ceci dit, je suis d'accord avec une certaine vision historiciste, hein, que de penser que dans 50 ans, 100 ans, ça ira mieux. Et donc mais on a besoin aussi de se dire la vérité. Et quand on parle, par exemple, vous prenez le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, il y a par exemple l'idée selon laquelle pour modifier les tests fondamentaux qui conduisent vers l'élection, que ce soit la charte, que ce soit la constitution, que ce soit le code électoral, on puisse s'entendre pour les modifier au plus tard 6 mois avant les élections et de façon consensuelle. Sous nos yeux, le Togo a modifié la constitution. Si mes informations sont bonnes, elle n'est pas encore promulguée, alors que les élections ont déjà eu lieu. Donc on peut relever ça sans être particulièrement désobligeant vis-à-vis du Togo. On peut également, au regard de certaines réactions, sans rentrer dans les problèmes de politique intérieure, on peut remarquer que ça n'a pas été fait de façon consensuelle. Et enfin, on constate que la CEDEAO elle-même a été obligée de changer en moins de 24 heures la nature de la mission qu'elle était censée envoyer au Togo. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que quand on s'engage à construire ensemble, à vivre ensemble, on s'entend sur un minimum. sur un minimum. Si on ne peut pas s'entendre sur le minimum, effectivement, il y a un problème. Moi, j'apprécie les efforts du Togo qui ont permis la facilitation entre la CEDEAO et les pays du Sahel, notamment dans la crise nigérienne. Si quelqu'un n'apprécie pas ça, la personne n'aime pas la CEDEAO. Mais il n'en demeure pas moins que c'était contraire à la décision collective. Et donc, moi, j'aurais préféré que le Togo, dans un premier temps, réussisse à convaincre ses collègues, ses pairs, pour qu'ensuite, ce soit la position du Togo qui l'emporte. Et que, voilà. Mais ne l'ayant pas fait, malheureusement, ça laisse une image à l'évidence pas très bonne pour la CEDEAO. C'est tout ce que moi je dis.
Hein, OK. Oui. Avant de vous laisser la parole, Credo Tété, vous voulez répondre?
Oui, non, mais juste pour dire que j'ai écouté avec un grand intérêt les arguments développés par le professeur Topanou, que je respecte bien, que je connais personnellement, mais il faudrait juste nuancer, parce qu'il est dit, il est crucial surtout de comprendre que le protocole additionnel de la CEDEAO n'interdit pas les modifications constitutionnelles avant les élections. Et si nous nous référons à l'article 2 du protocole, ça stipule que les États membres doivent s'abstenir de toute modification substantielle de la loi électorale. Ça précise bien, de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections. Donc, il est important de noter ici que cette disposition vise spécifiquement la loi électorale et non la Constitution en tant que telle. Donc, juste pour rappeler que l'État togolais est souverain et l'État togolais peut modifier la loi, sa loi fondamentale. Mais je voudrais également préciser, pour terminer, si vous le permettez, que selon l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO, je cite, les États membres s'engagent à éviter les modifications substantielles de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections. Donc, Eric, il est essentiel de noter que cette disposition concerne la loi électorale et non la Constitution. Donc, ça, c'est un point très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est ce que le protocole
additionnel... Mais n'empêche, la loi électorale a été modifiée récemment. Hein. La loi électorale a tout de même été modifiée.
Justement.
Sur le nombre de députés, notamment.
Justement, laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez, ça c'est le second point de mon développement, et concernant même la récente modification du code électoral qui permet aujourd'hui, mais qui a permis aujourd'hui la tenue conjointe des élections législatives et régionales, il faut prendre ça, cela doit être vu comme une optimisation du processus électoral. Et cette modification, bien que technique, Eric, ne constitue pas un changement substantiel.
Oui, mais certains opposants s'attendaient peut-être à ce qu'un consensus soit trouvé, ou du moins qu'un référendum puisse être organisé.
Non, je n'en disconviens pas. Avant d'arriver à l'idée de référendum, Eric, si tu le permets, et concernant la réforme récente où le nombre de députés togolais est passé même de 91 à 113, il faut souligner que cette initiative émane d'un parti de l'opposition extra-parlementaire, notamment l'Alliance nationale pour le changement de M. Jean-Pierre Fabre. Et cette proposition que l'ANC a faite au gouvernement, cette proposition a été renvoyée au cadre permanent de dialogue et c'est là où cela a été débattu de manière approfondie. Et il faut dire que le CPC est un mécanisme inclusif qui reflète l'engagement envers un dialogue. Maintenant, sur l'idée du référendum, vous savez...
Oui, très rapidement, parce que je dois donner la parole à Ibrahim Makan.
Oui, il y a l'article 144 de la...
Allô? Apparemment, la liaison s'est dégradée. Le temps de vous rappeler, je vais faire réagir Ibrahim Makan. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains analystes, hein, y compris moi-même? Le Togo est l'un des derniers pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu d'alternance, hein, hormis les pays touchés par des putschs ces derniers temps.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec pour le professeur que ce qui se passe au Togo est vraiment... inquiétant. Vous savez, quand on regarde on essaie d'analyser les textes africains, il y a d'abord l'esprit et la lettre. L'esprit, c'est que on ne doit pas changer les règles du jeu pendant le jeu. On les change avant et on les change ensemble, ces règles du jeu-là. Mais ce qui a été fait ces derniers temps, c'est juste un moyen de permettre une perpétuation d'une élite à la tête du pays en essayant d'utiliser les règles. Et la CEDEAO, justement, dans ce contexte-là, a totalement failli. Je suis d'accord avec le professeur. Et pour moi, encore une fois, je reviens au manque de leadership. Parce que c'est le leadership qui aurait dû, notamment le leadership au niveau de la Commission de l'Union africaine, de la Commission de la CEDEAO, qui aurait dû mettre l'accent, qui aurait dû mettre le droit sur les problèmes qu'il faut gérer. Et je veux juste donner un exemple. Il y a eu quelques années des élections en Gambie et la présidence de la CEDEAO à l'époque a refusé de superviser les élections en Gambie parce que la mission qui s'était rendue en Gambie était revenue avec un rapport qui a montré que tout ce qui se passait dans ce pays-là était contraire aux règles de la CEDEAO et le président de la commission d'alors avait dit qu'il ne peut pas lui se permettre d'accepter la violation par un État membre des règles de la CEDEAO. Et les chefs de l'État, après, ont entériné sa décision. Ça, c'est du leadership, je pense. Mais ce qui a été fait ces derniers temps, c'est vraiment le résultat de la situation qu'on vit au niveau du building de la CEDEAO à Abuja.
Rien
ne marche. Il n'y a personne qui gère.
Voilà, Abuja, le siège où réside le siège donc de la CEDEAO. Professeur Victor Topanou, dans votre tribune, vous avez également abordé la question de la crise sécuritaire et le retour des armées sur la scène politique. Et vous disiez que cette crise sécuritaire dans l'espace CEDEAO a été alimentée d'une part par les rébellions et d'autre part par l'émergence du terrorisme, du djihadisme. C'est d'une actualité brûlante, hein?
Absolument. Mais si vous me permettez, c'est dommage que le collègue au Togo ait perdu la ligne.
On va essayer de le rappeler. Hein.
Voilà, oui, je suis en ligne.
Oui,
cher professeur, bien-aimé, je suis en ligne et j'aurais préféré que, à la suite de M. Kahn, que Eric me donne la parole.
Je m'apprêtais à vous rappeler.
Vous écouter, monsieur le professeur.
Allez. Bon, voilà, laissez le professeur Topanou et je vous redonnerai la parole.
Je pense que si monsieur Eric ne vous a pas donné la parole, c'est peut-être qu'il ne savait pas que vous étiez revenu en ligne.
Tout à fait.
La preuve, c'est qu'avant même de tenir mon propos, je prenais mes précautions en disant c'est dommage. Non, ça veut dire que fondamentalement, quand on parle des lois électorales, vous devez savoir qu'elles tirent leur légitimité de la Constitution, leur légalité de la Constitution. Et donc, si vous sautez la tête, c'est-à-dire qu'il ne serait même jamais venu à l'esprit des responsables de la CEDEAO qu'un jour on puisse réviser la Constitution elle-même à moins de 6 mois avant les élections, parce que c'est pour ça qu'on s'est contenté de parler des lois électorales. En réalité, c'est pour ça que je suis d'accord avec M. Kahn lorsqu'il rappelle l'esprit. Donc, je pense que qu'on ait écrit loi électorale ou pas, il n'y a pas de loi électorale sans constitution. Et donc, à partir de ce moment-là, la constitution, si la source de la loi électorale est modifiée, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Moi, je voudrais juste dire ça. Par contre, je suis d'accord aussi avec M. Kahn. Lorsqu'il parle de leadership, il n'y a pas de construction sous-régionale sans leadership. Il n'y en a pas. Nous, on avait toujours pensé naïvement que le Nigeria, avec son poids, aurait pu faire un bon leader. Mais après, il y a d'autres thèses qui disent qu'on pourrait avoir un co-leadership avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, deux pays francophones, le Ghana et le Nigeria, deux pays anglophones, que ça aurait fait un bon quadrilatère de leadership. On est dans une sous-région qui souffre de leadership, il faut le reconnaître. Et ce n'est même pas au niveau du président de la Commission que le problème va se poser, c'est bien au-dessus. Et enfin, il y a aussi au niveau de la CEDEAO une autre crise dont on ne parle pas. C'est la crise financière. On n'en parle pas encore beaucoup, mais moi je sais qu'il y a au moins 3 États qui ne payent pas. Il y a le Nigeria, au moins que je sais. Il y a le Bénin, mon propre pays. Il y a également la Guinée. Bon, on estime que la Guinée traverse une crise économique, donc elle n'a pas les capacités. Mais le Nigeria et le Bénin disent, et je parle surtout des prélèvements communautaires. Ils font les prélèvements, mais ne les reversent pas à la communauté. De sorte qu'aujourd'hui, la CEDEAO a des problèmes financiers. Comment voulez-vous être une organisation sous-régionale qui fonctionne si vous ne payez pas? Bon, et enfin, pour revenir maintenant à votre préoccupation, oui, on a une troisième crise qui est plus récente, la crise sécuritaire. Malheureusement, la gouvernance civile, notamment dans les pays concernés, je pense aux trois pays du Sahel, je parle du Mali, du Burkina et du Niger. Même si le régime Bazoum a nuancé le bilan sécuritaire que le général Tchiani a fait, il n'en demeure pas moins que la crise du terrorisme est telle qu'à un moment donné, les gens ont eu le sentiment que la gouvernance civile ne permettait pas de résoudre les problèmes, et surtout les militaires qui étaient les premières victimes, parce que c'était eux qui voyaient leurs collègues mourir comme de petites mouches, se sont dit on prend nos responsabilités parce qu'avec ces civils on ne pourra rien faire.
Oui, le temps presse, je vais laisser conclure rapidement notre ami du Togo. Allez-y pour votre mot de conclusion.
En termes de conclusion, donc je voudrais remercier le professeur Anou et M. Pape Ibrahim Akane pour leur contribution à la réussite du débat. Mais je voudrais seulement, je suis d'accord avec le professeur Topanou lorsqu'il dit que la loi électorale tire sa connaissance de la loi constitutionnelle. Ça, c'est vrai, mais selon l'esprit actuellement de l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO, la précision a été faite sur la loi électorale que j'appelle modifier les six mois précédents.
La ligne est en train de se détériorer. Hein. Allez-y. Oui, là, la ligne s'est détériorée.
Oui.
Allez-y. La ligne a commencé par se détériorer.
Oui, non, je disais rapidement, Eric, que je partage l'avis du professeur Topanou lorsqu'il dit que la loi électorale tire sa quintessence de la loi constitutionnelle, mais peut-être que tel que stipule l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO qui parle des modifications substantielles de la loi électorale dans les six mois précédant les élections, peut-être qu'on va encourager la CEDEAO à faire une relecture de ce protocole additionnel. Tel que l'article 2 le stipule aujourd'hui, on ne peut pas incriminer le Togo d'avoir fauté ou bien d'avoir joué le rôle de mauvais élève du moment où le Togo fait des efforts constants pour renforcer sa démocratie en ligne avec les exigences régionales de la CEDEAO. Donc,
voilà.
C'est ce que je voudrais dire.
Merci. Merci pour votre mot de conclusion. Je vais peut-être, pour être juste, laisser également les deux autres invités très rapidement. Professeur Topanou, vous disiez que si rien n'est fait, eh bien, la CEDEAO ou bien la sous-région pourrait vivre ou bien connaître une sorte de partition, hein, c'est ça?
Oui, c'est ce que je crains. Moi, j'espère bien que la mission des sages va être plus concluante que l'intervention directe des chefs d'État en exercice. Si ça n'est pas le cas, nous allons vers une partition de fait de la sous-région avec d'un côté l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est déjà une réalité, qui à certains moments déjà a fait des sorties diplomatiques communes. Donc je crains que si rien n'est fait, et on va vers la fin, on a un délai d'un an pour qu'il sorte effectivement juridiquement. Si au bout de quelques mois, le problème est résolu, ce serait tant mieux pour la sous-région, mais à défaut, là, nous entrons effectivement dans ce que les sages ont craint, c'est-à-dire un théâtre de bataille géostratégique avec un camp proche de l'Union, enfin de la Russie, et un autre camp proche de la France et de l'Occident, et puis voilà, on va recommencer comme en 1960, enfin ça a commencé en 1949, mais nous, on a attrapé le train en 60 en étant indépendant. Donc, je crains que ce soit un nouveau remake.
D'accord. Merci. Très rapidement, Ibrahim Akane, un mot de conclusion.
Oui. Moi, je suis plus optimiste. Je pense que l'AES n'est pas une réalité nouvelle. L'AES, c'est simplement la réaction de trois pays qui avaient été sanctionnés sévèrement, je le reconnais, par la CEDEAO et qui se sont rebellés. Maintenant, rebellés dans le sens de trouver une solution. Et je pense que cette rébellion-là, pour moi, est une occasion unique pour la CEDEAO de repenser l'intégration régionale, de repenser les relations entre les États et l'institution régionale, et de repenser aussi la vision de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, ce ne doit pas être une CEDEAO des chefs d'État, une CEDEAO des nations. Ça doit être une CEDEAO des peuples. Et si on veut que ça soit une CEDEAO des peuples, on doit mettre en avant les peuples et les peuples doivent pouvoir orienter l'action de l'institution. Et je pense que le moment est favorable et nous tous, nous devrions œuvrer dans cette direction-là, faire en sorte que l'institution soit ce que nous, en tant que Ouest Africains, nous voulons qu'elle soit.
Voilà, c'est la fin de ce débat sous l'arbre à palabres consacré à la CEDEAO, ou plutôt à l'avenir de la CEDEAO avec les invités. On a essayé de disséquer les problèmes qui minent le fonctionnement de cette institution sous-régionale dont le traité qui acte donc sa création a été signé le 28 mai 1975 par 15 pays d'Afrique de l'Ouest. À l'origine, la CEDEAO était essentiellement économique. Par la suite, elle est passée donc aux questions politiques. Et pour disséquer donc les problèmes qui minent le fonctionnement de la CEDEAO, j'ai reçu trois invités: Credo Tété, journaliste togolais et analyste politique; Prudent Victor Topano, professeur de sciences politiques à l'université d'Abobin et Calavi, ancien ministre et actuellement député à l'Assemblée nationale du Bénin; et Pape Ibrahim Akan, directeur du programme de plaidoyer pour l'Union africaine au bureau ouest africain de l'ONG Oziwa. Ce fut un plaisir, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric.
Eric Topona, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du débat sous l'arbre à palabres. Thank you.